RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage au Kosovo. 10 ans après son indépendance, c'était le 17 février 2008. Soutenu par les États-Unis et la plupart des pays de l'Union européenne, il est reconnu comme État souverain par 115 pays. Mais la Serbie rejette toujours l'indépendance de son ancienne province albanaise et elle peut compter sur le soutien de la Russie et de la Chine. Ce 10e anniversaire se déroule dans un contexte pessimiste. Le pays le plus pauvre des Balkans est gangréné par la corruption. Le chômage touche une personne sur trois, la réconciliation entre les diverses communautés demeure un défi et la question des relations avec la minorité serbe est loin d'être réglée. Le Kosovo, qui ambitionne de rejoindre l'Union européenne, vit sous perfusion et sa jeunesse, qui représente plus de 70% de la population, est tentée par l'exil. Kosovo, 10 ans d'indépendance et 1000 défis. Grand reportage signé Anastasia Becchio.
Ici, tu vas voir, il y a plein de gens qui boivent du café, c'est juste parce qu'ils perdent leur temps, il n'y a pas trop quoi faire. Quoi. Comme les gens ne travaillent pas, tous les cafés, il y a des cafés partout. Je m'appelle Gözime, j'ai 26 ans maintenant, j'habite à Pristina, c'est la capitale du Kosovo. J'ai vécu 2 ans à Paris. Je suis allée avec le programme au pair. J'ai habité avec une famille française. Après, en fait, j'ai décidé de retourner pour trouver quelque chose ici. Mais je suis toujours en train de chercher.
Comme Gözime, plus d'un jeune sur deux au Kosovo est sans emploi et beaucoup tentent de quitter le pays. C'est le cas de Leridon, 20 ans, étudiant en 3e année de langue et littérature française à l'université de Pristina. En 2008, il a passé 2 ans en France avec ses parents et son frère. La famille y a obtenu l'asile, mais a fini par repartir.
Je regarde toujours d'essayer de trouver des moyens d'y aller là-bas.
En France?
Oui, en France, toujours. Pour moi, personnellement, je vois pas mon avenir ici. Même si, par exemple, on finit des études, on n'est pas sûr si on va trouver quelque chose de travail. Et j'en ai pas mal des amis qui voudraient y aller.
Vous seriez prêt à y aller illégalement?
Je sais pas, on a fait une fois, mais je voudrais pas faire encore pour la deuxième fois.
En 2008, la famille de Leridon a fait appel à des passeurs pour gagner la France. Ceux-ci les ont lâchés à la frontière avec la Hongrie et ils ont dû se débrouiller seuls. Un très mauvais souvenir pour Leridon, qui n'avait alors que 10 ans. En attendant de trouver une solution pour quitter le Kosovo, il doit travailler dans un centre d'appel téléphonique suisse pour faire vivre ses parents et sa jeune épouse, tous sans emploi. Il y gagne 200 euros par mois. Difficile dans ces conditions d'être assidu à l'université. Neriman Kamberi est professeur de français.
C'est une obligation qu'ils assistent aux cours, hein, mais moi je suis très tolérante, connaissant la situation aussi au Kosovo. Et c'est vrai que ces centres d'appel ont attiré beaucoup de nos étudiants, malheureusement. Et d'un côté c'est très bien, parce que comme Leridon, ça fait vivre leur famille, ça les aide à faire des études. C'est pour ça que je suis plutôt tolérante.
Sur le boulevard Mère Teresa, la rue piétonne du centre-ville, des bannières célébrant les 10 ans du Kosovo ont été déployées. Mais Natura Draoucha, titulaire d'un master en traduction d'anglais, n'a pas vraiment le cœur à la fête. Comme beaucoup de jeunes ici, elle rêve de partir du Kosovo.
J'ai candidaté pour de nombreux postes ici, mais je n'ai jamais reçu une seule réponse. Mon mari, lui, travaille. Il est professeur à l'université ici à Pristina. Mais malgré ça, nous réfléchissons à partir à l'étranger, parce que son salaire de 450 euros ne nous permet pas de finir le mois. Pour cette raison, mon mari et moi, nous avons tenté notre chance avec la loterie américaine pour obtenir la green card. J'espère qu'en mai, nous serons choisis. Tout ça, c'est parce que nos responsables politiques ne travaillent pas et qu'ils ne pensent qu'à se remplir les poches. Ils ne pensent pas à nous, alors je ne vois pas pourquoi je devrais penser au Kosovo.
Si, comme les oiseaux qui tourbillonnent au-dessus de sa tête, Natura rêve de s'envoler vers une vie meilleure, pour d'autres, le départ du Kosovo n'est plus qu'une question de semaine. Cours d'allemand dans une classe de l'APPK, l'Agence pour le soutien de l'emploi dans le centre de Pristina. Après quelques mois de familiarisation avec la langue, Alden Churo, 18 ans, s'apprête à partir l'été prochain pour la région de Stuttgart. Il travaillera comme auxiliaire de vie dans une maison de retraite d'une petite localité de 5000 habitants.
Ça va être un nouveau départ pour moi. Je vais travailler en Allemagne dans une ville qui s'appelle Vanweil. Je travaillerai la moitié du temps et l'autre moitié, j'étudierai. J'ai décidé de venir dans ce centre parce qu'il offre de bonnes opportunités aux jeunes. C'est un bon moyen de partir à l'étranger et d'y étudier. Je ne sais pas encore ce que je ferai ensuite, si je rentrerai au Kosovo ou si je resterai là-bas. Je n'ai pas encore de plan.
Chaque année, depuis 5 ans, la PPK envoie entre 60 et 70 jeunes en Allemagne pour travailler dans les secteurs en tension. La santé essentiellement, mais aussi les technologies informatiques et le bâtiment. Le centre, financé par des donations étrangères et à un degré moindre par les institutions du Kosovo, met en relation employeurs potentiels en Allemagne et main-d'œuvre. Le directeur d'APPK, Bedri Jaffa, estime que c'est un moyen comme un autre de lutter contre le chômage des jeunes au Kosovo.
C'est une situation où tout le monde est gagnant. Le marché du travail en Allemagne a de fortes demandes et ici l'offre est très grande. C'est heureux et c'est malheureux en même temps. C'est une bonne chose parce que c'est une occasion pour ces jeunes de trouver un emploi alors que le taux de chômage est très élevé. Mais je dis aussi que c'est en même temps malheureux parce que ce serait mieux que tout le monde puisse travailler au Kosovo. Mais nous espérons que ces personnes ne partiront pas pour toujours et que dans 10 ans, les conditions ici seront telles que ces personnes qui auront pu se former à l'étranger et qui auront travaillé un certain temps à l'étranger, eh bien pourront revenir ici avec leur expérience et nous aurons alors ce qu'on appelle une migration circulaire.
Depuis 2013, l'Allemagne permet une émigration légale pour des travailleurs saisonniers, mais aussi pour des jeunes qui souhaitent allier travail et études. Après 3 ans de formation en alternance, ils obtiennent en général un permis de travail permanent en Allemagne. À la PPK, les places sont chères. Il y a 5 fois plus de demandes que de postes disponibles. Christina Frokai, 19 ans, estime avoir eu de la chance d'être prise. Elle partira, elle aussi, dans le bas de Württemberg pour y travailler dans une maison de retraite.
Je viens de terminer le lycée et j'ai vu que de nombreux jeunes qui ont fini l'université ne trouvaient aucun emploi. Ça me fait peur, bien sûr, de penser à tous ces jeunes diplômés qui n'arrivent pas à travailler. Et je me suis dit qu'il fallait que j'essaye autre chose. Ma sœur aînée est en train de terminer ses études d'architecture. Elle est en stage actuellement. Mais ensuite, elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Et c'est pour ça que je suis venue ici, parce que je la voyais sans aucune perspective de carrière. Et je me suis dit qu'il fallait essayer autre chose.
Une 50aine de personnes patientent dans un couloir mal éclairé de l'hôpital de Pristina, devant l'entrée du service d'orthopédie. À l'appel de leur nom, les patients, plâtrés, bandés ou se déplaçant avec des béquilles, tentent de se frayer un chemin à travers la foule pour gagner les boxes des médecins. Pour les autres, il faut attendre, debout, longtemps. Le service est surchargé. Après ses consultations du matin, Gemma El-Selmani, président du syndicat du personnel médical, doit encore rendre visite aux patients hospitalisés à l'étage supérieur. Ces dernières années, il a vu plusieurs de ses jeunes collègues partir à l'étranger.
J'ai un collègue qui a commencé sa spécialisation ici, mais au bout d'un an, il est parti en Allemagne. Il a pu y terminer ses études et il a de bien meilleures conditions de vie. Ici, il ne pouvait pas subvenir seul à ses besoins, alors que là-bas, il gagne suffisamment bien sa vie pour pouvoir faire vivre sa famille et ses proches rester ici. Nous n'avons plus beaucoup de sang neuf à l'hôpital et ça a des répercussions sur la qualité des soins. Dans mon service, par exemple, j'ai 30 patients et je n'ai qu'une seule infirmière qui est de permanence pendant 12 heures. Dans les cliniques privées, c'est une infirmière pour 4 patients. En plus, ici, c'est un service de traumatologie. On a des patients qui sont immobiles ou qui doivent être aidés pour bouger et on aurait besoin d'une infirmière pour 2 patients.
Salaire trop faible, mais aussi sous-investissement public, corruption et mauvaises conditions de travail. Beaucoup de médecins et d'infirmiers sont tentés de partir à l'étranger ou dans des cliniques privées. Résultat, l'âge moyen des médecins hospitaliers est passé de 34 ans au début des années 2000 à 50 ans aujourd'hui.
Ce n'est pas normal.
Dans un état normal, chaque départ de médecin pour l'étranger devrait causer un mal de tête aux dirigeants qui font les lois. Si les autorités ne se réveillent pas et si elles n'appliquent pas des politiques favorables au secteur de la santé, ça ne fera qu'empirer. Il faudra bien qu'ils s'y mettent un jour, sinon ils finiront par rester tout seuls pour soigner le peuple.
Parfois surnommé le trou noir des Balkans, le Kosovo doit beaucoup au soutien financier de la communauté internationale. En 2016, l'Union européenne a signé avec le Kosovo un accord de stabilisation et d'association destiné à soutenir la mise en œuvre de réformes tout en donnant au Kosovo une possibilité de se rapprocher de l'Europe. De son grand bureau avec vue plongeante sur Pristina, Natalia Apostolova, la représentante de l'Union européenne au Kosovo, invite les autorités à faire plus.
Le Kosovo, c'est le lieu où l'Union européenne dépense les plus grosses sommes d'argent par habitant dans le monde. Nous versons et nous nous engageons à verser environ 100 millions d'euros par an. Nous avons obtenu un certain nombre de réformes et nous sommes déterminés à aider le Kosovo. Mais il faut aussi que les autorités nous aident. Les principaux défis sont l'état de droit, la lutte contre la corruption et le crime organisé, ainsi que l'engagement pour la jeunesse. Si des progrès sont réalisés, je pense que les sentiments de la population vont changer. Mais où que nous allions, nous entendons encore beaucoup de pessimisme dans la population. Cet été, il y a eu une nouvelle vague d'exode et malheureusement, comme le montrent nos études, les gens qui partent aujourd'hui, ce ne sont pas les plus pauvres. Ce sont les gens de la classe moyenne qui ont décidé d'aller chercher ailleurs un avenir meilleur.
Un meilleur avenir, c'est ce que tente d'offrir l'association Women for Women dans ses locaux installés en périphérie de Pristina. L'ONG américaine vient en aide aux femmes défavorisées et leur offre des formations en vue d'une insertion professionnelle. À sa tête, Ilyana Gashi, née dans la capitale kosovare, elle a dû passer quelques années à l'étranger pendant la guerre.
The day of independence was the happiest day in my life.
Le jour de l'indépendance a été le jour le plus heureux de ma vie, enfin, après la naissance de mes enfants. J'ai investi tellement d'années de ma vie et de ma jeunesse. J'ai été une réfugiée. J'ai dû suspendre mes études parce que mon université a été fermée. C'est donc un privilège de célébrer ce 10e anniversaire. Mais j'aurais aimé que nous ayons plus à célébrer. Il y a encore trop de problèmes que nous aurions pu mieux résoudre. J'espère qu'à l'avenir, nous ne parlerons plus de corruption et de la façon dont elle affecte la vie des gens qui sont passés par tant de souffrances. J'espère que nous aurons plus de raisons pour faire la fête.
De célébration, il n'en sera pas question à quelques kilomètres seulement de Pristina, dans l'enclave serbe de Gračanica. Dans cette localité aux allures de village, on ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Nenad Maksimović est le responsable de l'ONG serbe, Centre pour la paix et la tolérance.
Absolutely, I don't care. Kosovo's independence is not...
Je m'en contrefiche de ces célébrations. L'indépendance du Kosovo n'est pas reconnue par les Serbes et personne ici ne considère le Kosovo comme son pays. Pristina était une ville où vivaient 40 000 Serbes et aujourd'hui, il y a plus de Chinois à Pristina que de Serbes. En surface, le Kosovo peut donner une bonne image, surtout si on le compare à l'Afghanistan ou à l'Irak. Il y a des institutions, les minorités serbes font partie du gouvernement, donc en surface, ça peut sembler bien. Mais si vous demandez aux gens qui habitent ici, s'ils vont à Pristina, ils n'y vont pas. Ils ne se rendent pas dans 85% du territoire du Kosovo parce qu'ils peuvent avoir des soucis. Et vous appelez ça une société normale? C'est de la folie, c'est ridicule.
Nenad Maksimović dénombre quelques 600 incidents ethniques visant les Serbes chaque année lorsqu'ils sortent de leurs enclaves. Dans la rue principale de Gračanica, les drapeaux rouge, bleu, blanc, les couleurs de la Serbie, décorent les bâtiments municipaux. Les caractères cyrilliques s'affichent sur toutes les devantures de magasins et dans les cafés. Ici, peu de personnes parlent albanais. Et pour les jeunes, trouver un travail relève de la gageure, comme l'explique Petar Djordjevic, l'un des responsables de l'association Young Active Gračanica.
L'emploi est sans conteste le plus gros problème à Gračanica. Dans tous les appels à candidature, il est écrit qu'il faut connaître l'albanais. Et c'est difficile pour les Serbes, parce que nous sommes isolés, nous ne parlons pas l'albanais. La plupart des Serbes ne travaillent que dans leur municipalité. La langue peut être un frein, mais il y a aussi la peur de l'autre.
about each other.
Comme Petar, Nemanja Andrejic, 24 ans, est diplômé en électrotechnique à l'université de Mitrovica. Et comme lui, il aide ses parents dans des travaux agricoles, un des rares moyens de subsistance en attendant de trouver un emploi quelque part.
Ici, on vit comme dans un ghetto, sans pouvoir se déplacer librement. Il n'y a pas de travail. Pour en trouver, on est obligé d'aller à Pristina. Mais même là-bas, il n'y a aucune perspective. Au final, comme on ne trouve pas de travail, on part tous en Serbie ou à l'étranger. Je ne sais pas comment vous expliquer, je n'ai pas les mots pour vous décrire la vie ici. C'est comme une sorte de force invisible qui vous empêche de circuler librement. Avant, on pouvait aller sans problème à Pristina. Mais aujourd'hui, on ne peut y aller qu'accompagné d'un ami albanais, si je puis m'exprimer ainsi, soit d'une personne qui parle albanais.
La Maison de la Culture de Gračanica est l'un des rares lieux de divertissement dans la municipalité serbe, avec ses spectacles de chant, de danse, son théâtre, ses expositions et sa bibliothèque. Devant le bâtiment, une sculpture monumentale, comme en écho à celle de Pristina. Si dans la capitale kosovare, 7 lettres en béton forment le mot « newborn », nouveau-né, pour célébrer la naissance du nouvel État il y a 10 ans, ici c'est un autre mot anglais, « missing », disparu, qui se dresse. Sur chacune des lettres, des dizaines de photos d'hommes et de femmes tués ou disparus après la fin de la guerre en 1999. Živojin Rakočević, le directeur de la Maison de la Culture de Gračanica, en connaissait beaucoup.
Lui, c'était un ami proche. Il était critique de jazz et journaliste. Il avait des amis partout dans le monde. Le 21 août 1999, il a disparu et c'est bien plus tard qu'on a découvert quelques ossements dans un village albanais. C'est important de rappeler aux gens que des personnes ont disparu. C'est comme une sorte d'avertissement pour que ça ne se reproduise plus. Il faut en parler.
Près de 2 décennies après la guerre et 10 ans après la proclamation d'indépendance du Kosovo, la question de la réconciliation est toujours délicate, d'autant qu'il reste des centaines de disparus, côté albanais comme côté serbe.
On est une ethnie, on est une nation en trop ici dans la communauté albanaise. On gêne comme un caillou dans une chaussure. Je me demande souvent, mais d'où nous vient cette incroyable capacité de résistance? C'est juste incroyable. Et moi j'aime ça, car cette force nous a permis de préserver notre culture, nos monastères à Gračanica, à Dečani. Pour nous, c'est comme Notre-Dame, c'est notre chapelle Sixtine à nous. C'est très important.
Dans la République du Kosovo, près de 90% de la population est musulmane. Les Serbes, eux, considèrent la région comme le berceau de leur foi orthodoxe et de leur identité nationale. Elle compte plusieurs monastères médiévaux classés au patrimoine de l'UNESCO qui ont été victimes d'attaques d'extrémistes kosovars, notamment lors des émeutes de 2004. À 1 heure de route de Gračanica, au bout d'une vallée encaissée, le monastère de Draganac du XIVe siècle. Son entrée n'est plus gardée par des militaires, mais dans cette région peuplée en majorité de Kosovars albanais, la vie des Serbes reste difficile. Et s'ils ne quittent pas la région, c'est en partie grâce au soutien spirituel des 11 moines et novices de Draganac. L'igumen Ilarion est le père abbé du monastère.
Dans la région de Gnjilan et Kamenica, on peut dire un diamètre de 50 km, il y a environ 30 000 Serbes qui sont orthodoxes tous et qui essayent de rester ici, malgré la situation difficile et les menaces qu'ils ont expérimentées. Nous aurons des menaces jusqu'à la stabilisation politique de Kosovo et Metohije. Quand il n'y a pas la certitude politique, tout est possible. Nous sommes toujours dans la période dans laquelle nous avons besoin seulement de survivre. Et nous prions à Dieu de survivre et d'attendre les temps mieux qu'ils arriveront bientôt, j'espère.
Kosovo, 10 ans d'indépendance et 1000 défis, un grand reportage d'Anastasia Becchio, réalisation Pierre Chaffanjon.